Comment ces textes viennent nous aider à comprendre qui est la Trinité et quel lien nous pouvons avoir avec ce Dieu Trinité. Dans la première lecture, extraite du livre du Deutéronome, ce livre est écrit, pense-t-on, juste au moment où, après un certain temps, le royaume du Nord, le royaume d'Israël, a été emmené en exil à Babylone, et que le royaume du Sud, le royaume de Juda, s'est posé la question du sens que cela pouvait avoir et du péché que Israël portait dans cette division, ce livre intervient pour permettre la réforme, pour permettre au peuple de Dieu de mieux prier, de mieux se reconstituer, de mieux être signe de la présence de Dieu dans le monde. Et voici que dans ce texte, extrait du deuxième discours de Moïse, fait à son peuple, ce texte vient interroger les croyants. N'a-t-on jamais rien vu de pareil ? Comment Dieu est intervenu dans notre histoire ? Comment Dieu est venu faire des prodiges pour libérer Israël ? Ce Dieu-là, qui intervient constamment aux côtés de son peuple, ce Dieu qui se fait entendre, ce Dieu qui parle au milieu du feu, ce Dieu qui est créateur, qui est libérateur, ce Dieu qui fait alliance, ce Dieu qui invite à garder tout cela dans son cœur, ce Dieu-là est vraiment un Dieu de vie. Et déjà, nous pouvons y voir les signes de ce Dieu qui se rend présent, qui se manifeste aux côtés de son peuple, à la fois Dieu en haut, dans le ciel, et Dieu en bas, sur la terre. Et Dieu qui se manifeste. C'est une théophanie. Ce Dieu-là, qui se révèle aussi bien dans le ciel que sur la terre et dans ses relations avec les hommes, nous indique déjà, là, dans ce livre du Deutéronome, comment est ce Dieu Trinité. Ce Dieu Père dans le ciel, ce Dieu Fils qui s'incarne, ce Dieu Esprit qui est manifestation de Dieu au milieu de la relation entre Dieu et les hommes. Mais pour nous éclairer davantage, nous avons entendu ce psaume. Mais ce psaume a été très mal traduit en français. Aïe, aïe, aïe. Alors il va falloir retourner dans la langue, en hébreu, pour y découvrir combien ce psaume recèle de choses très, très, très intéressantes. On nous dit, oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il fait bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Je ne sais pas qui a fait cette traduction, mais il s'est complètement planté. Ce n'est pas le mot « amour » qui est écrit en hébreu, c'est le mot « nefesh », rempli de son esprit, de son souffle de vie. C'est pas pareil que amour, souffle de vie. Et ça vient bien rejoindre la première lecture, ce Dieu de vie qui se manifeste. Et alors du coup, ça va mieux. La terre est remplie de son amour, le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Oui, là je comprends mieux. Mais attendez, c'est pas fini. Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Ils ne mettent pas leur espoir en son amour. Ils mettent leur espoir. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas le Nefesh, c'est la Chesed. La Chesed, en hébreu, c'est à la fois l'amour, la miséricorde, la bienveillance, le gardien, le bouclier, qu'est Dieu. C'est tout ça, la Chesed de Dieu. C'est beaucoup plus vaste que le simple amour. C'est beaucoup plus grand et plus manifeste pour ce Dieu-là qui vient au cœur de la vie humaine. Et alors du coup, Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en sa recette pour les délivrer de la mort, les garder au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur, du coup, c'est bien la vie. Il est pour nous un appui, un bouclier, et du coup, ça va bien. Et alors la fin, que ton amour, Seigneur, soit sur nous, ben, c'est pas encore l'amour. Cette fois-ci, c'est la Ruach, l'Esprit de Dieu. Que ton Esprit, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. On a déjà là, dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, la révélation de ce Dieu en son Esprit. L'Esprit de Dieu est présent au-dessus du peuple. Il le protège, il l'entoure, il le préserve, il le garde. Ce psaume, c'est le psaume 33, vient bien nous aider à comprendre ce qu'est ce Dieu Trinité, particulièrement en son Esprit. Je passe sur la deuxième lecture. Ça va, il n'y a rien de particulier. Mais du coup, à partir de cette première lecture et du psaume, comment peut-on comprendre l'Évangile ? Ah ! Ils vont en Galilée, ça c'est Matthieu. On n'est pas au temple à Jérusalem. On est revenu en Galilée, comme au premier jour, comme aux premières heures de la prédication de Jésus, on est aussi en Galilée et sur une haute montagne. Ah, une montagne, en Galilée, Jésus se révèle ressuscité. C'est la première fois dans l'évangile de Matthieu que Jésus se révèle ressuscité à ses apôtres. Oui, c'est chez Matthieu. Il n'y a pas eu Emmaüs, il n'y a pas eu tout ça chez Matthieu. Il y a d'abord l'apparition aux femmes, où il leur dit, dis-leur, il dit à Marie-Madeleine, dis-leur d'aller en Galilée, c'est là que je les attends. Et ils y vont, et voilà. Et c'est ce texte que nous avons. Il est sur la montagne, il se manifeste à eux, mais dites-moi, ce Jésus ressuscité qui se manifeste sur la montagne, ça ne vous fait pas du coup penser à autre chose ? Dieu qui se révèle à Moïse et à son peuple sur la montagne et qui leur donne un commandement, une règle de vie. C'est la manifestation du Dieu de Jésus-Christ sur la montagne en Galilée. On l'a de nouveau, le lien est fait. Et qu'est-ce qu'ils font, eux ? Eh bien, ils se prosternent. Peut-être qu'ils ont enlevé leurs chaussures, comme pour s'approcher du buisson ardent pour Moïse. Certains eurent des doutes. Alors ça nous fait du bien à nous. Ils ont des doutes comme nous pouvons avoir des doutes. Est-ce que vraiment c'est Jésus ressuscité là qui leur apparaît ? Ils n'en savent pas vraiment grand-chose. Ils ont des doutes. Et pourtant ils se prosternent. Étonnant. Quand vous venez à la messe, peut-être vous avez des doutes. Peut-être vous vous dites, oh, à quoi ça sert ? Est-ce que vraiment ça a un sens pour moi aujourd'hui ? Est-ce que j'en suis digne ou est-ce que ça me sert à quelque chose, ça m'aide? Ou j'y vois rien. Mais vous venez quand même. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Dieu s'approche de son peuple et adresse ses paroles à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Voyez le parallèle. On est bien chez Matthieu. Matthieu utilise à fond l'Ancien Testament pour écrire son évangile. Jésus est bien le médiateur que Dieu envoie aux hommes, comme Moïse était le grand prophète que Dieu avait envoyé à son peuple. Et il leur adresse ses paroles, les devarim en hébreu, les paroles. Ces devarim qui sont pour le peuple les lois, la Torah qui fait vivre, qui donne sens à la vie. On la retrouve ici. Jésus leur adresse ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ah tiens, en Jésus-Christ encore nous avons cette histoire du Dieu dans le ciel et sur la terre. Et ce Jésus, que leur donne-t-il comme commandement ? Allez de toutes les nations faites des disciples. Beaucoup, dans le passé, ont pu interpréter cette phrase comme « Il faut que tout le monde devienne disciple de Jésus ». Mais ils ne savent pas lire en grec. En grec, la traduction la plus correcte serait « Parmi toutes les nations, faites des disciples ». Ce serait la traduction la plus proche, on dirait, de ce texte-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être chrétien, mais c'est important que parmi toutes les nations, il y ait des chrétiens. Matthieu, l'évangéliste, veut faire sortir du cadre purement juif. Il invite toutes les nations à participer à l'élection d'Israël. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gardez les commandements. Observez. On est bien dans cette même tradition-là de ce Dieu qui vient se révéler aux hommes, qui donne son esprit et qui envoie son médiateur pour que le peuple reste fidèle à lui. Et effectivement, Jésus est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, la boucle est bouclée. Rappelez-vous le début de l'évangile de Matthieu, ça commençait avec la généalogie. Et à la fin de la généalogie, on avait l'ange qui vient dans un songe parler à Joseph et qui dit « Tu l'appelleras ton fils, Emmanuel », ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Et l'évangile se termine par « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais de quel monde ? Tiens, c'est bizarre, il ne dit pas les temps. Étonnant. Ce n'est pas une question que d'histoire, que de durée. C'est aussi une question d'espace et de relation aux personnes. Ce Dieu qui se révèle Père avec sa chesed, il envoie son esprit sur chacun de nous. Il nous envoie son Fils unique pour nous permettre d'être en lien avec lui. Et lui le Père, et lui le Fils, et lui l'Esprit ne sont qu'un. Mais en fonction de la manière dont ils s'y prennent, dont il se prend Dieu pour se révéler à nous, il est parfois Père, parfois Fils, parfois Esprit. Alors vous allez me dire, mais comment on le prie ? Comment on va prier ce Dieu ? Lequel on va prier ? Si vous faites attention à la façon dont nous prions en Église, on s'adresse toujours à Dieu le Père par la médiation de son Fils, dans la puissance de l'Esprit-Saint. C'est ainsi. Et parfois, nous pouvons, et nous usons assez volontiers d'ailleurs, de l'intercession des saints, et en particulier de la Vierge Marie. Mais attention, l'unique médiation, c'est le Christ. Celui vers qui nous tournons notre prière, c'est le Père. Et nous demandons l'aide de son Esprit Saint pour le prier. C'est ça. Vous remarquez que déjà, Dieu, pour se dire, Dieu Trinité, pour se dit déjà au milieu, au cœur d'une relation avec nous. Ce n'est pas possible autrement. Nous avons un Dieu qui se révèle tout simplement parce qu'il est déjà en relation avec nous. À nous de creuser davantage cette relation pour que nous puissions entrer dans cette puissance, dans cette vie de la Trinité pour en vivre et en faire participer le monde jusqu'au bout.